Voilà, vous êtes bien sur Radio Libre Circulation. Alors, peut-être rapidement, si tu veux, Alice, voir des choses qu'on aurait oublié de dire concernant donc la nouvelle, les nouvelles législations ou ce qui est apparti à toi, je ne sais pas.
Par rapport à la circulaire, ce qu'on voit, et puis c'est le cas sur un peu toutes les thématiques qui concernent les personnes étrangères, c'est qu'il y a quand même une volonté aussi de... C'est toi, d'ailleurs, je vais te citer, Fatima. Oui. « Diviser pour mieux régner ». Toi qui disais ça.
Oui.
Non, mais il y a vraiment cette volonté de plus en plus de mettre face à face, là, en ce qui concerne l'hébergement, les personnes étrangères et les personnes françaises à la rue. Et ce qui est pareil, encore une fois, pardon, je suis un petit peu optimiste aujourd'hui malgré tout ce contexte, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on se rend compte que malgré toutes ces tentatives de division, il y a quand même le front associatif, notamment militant, qui... Enfin, ils n'arrivent pas à exploser ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui... Les associations de défense des droits des étrangers, les personnes étrangères elles-mêmes, les personnes françaises à la rue, les associations qui les soutiennent, voilà, et tous les militants ne se sont pas opposés sur ce sujet-là, alors que ça aurait pu être le cas. Enfin, tu vois, on avait eu plein de situations où on demandait aux gens de partir d'un lieu d'hébergement vers un autre parce que des migrants arrivaient. Enfin, ça aurait pu vraiment créer d'énormes tensions. Et on a quand même l'impression que voilà, on continue à essayer de faire front commun. Et c'est important de se dire que tout ça, c'est des vraies tentative aussi de division pour nous rendre moins forts, donc il ne faut pas se laisser avoir.
Ok. Ouais.
Non, seulement je te voulais demander qu'est-ce que c'est ton opinion à propos de l'effet que toute la solidarité qu'on pratique, qu'on met en place comme ça, il n'a pas trop d'influence sur les lois, non? Parce que toujours de pire en pire, moi je vois, quand on parle de la France par exemple, mais c'est l'Italie, comme c'est la Pologne, comme c'est l'Allemagne. En fait, je crois que c'est une vague un peu générale de toute l'Union européenne qui est en train de couper tout ce qu'il a, tous les flux migratoires, non? D'abord, quelquefois, je me pose cette question, que je me demande un peu comment on va un peu plus influencer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations comme ça, mais toutes les fois qu'on va, on voit des élections, on voit des... Ou le gouvernement même, ils sont toujours en train de couper, ils cherchent toujours de couper cette chose, de créer des espaces où on cache cette personne, on les retient, comme les centres de rétention, comme les CAO, on les cache, on les éloigne de la ville, on les laisse pas là, et après on les remet dans les pays, non? Alors je me demande, c'est ton opinion aussi, qu'est-ce que tu en penses, comment on peut plus s'activer sur ça, non?
Ouais.
Influencer, parce que c'est influencer vraiment.
C'est marrant que tu me poses cette question à cette période-là, parce que là, nous, la CIMAD, on a quand même un peu ce côté-là aussi. On fait pas mal ce qu'on appelle du plaidoyer, où on essaie du coup de sensibiliser un peu les autorités aux choses qu'on défend. Mais c'est vrai que là, on a un peu fait le constat ces dernières années qu'en fait, ça servait pas à grand-chose. L'année dernière, avant les élections, on a essayé vraiment de s'adresser aux candidats, etc. Puis évidemment... ça n'a pas marché. On essaie aussi quand même de faire ce qu'on appelle de la sensibilisation pour s'adresser directement aussi au public, du coup, et aux gens qui votent. Mais on sait très bien que c'est pas seulement ça. La démocratie, ça passe pas uniquement par le vote, évidemment. Donc là, on se dit de plus en plus qu'en fait, il faut réfléchir à des actions, ce qu'on appelle des actions coup de poing. Enfin voilà, essayer de faire front tous ensemble sans forcément attendre qu'il y ait des changements législatifs. Mais il y a quand même aussi, là aussi, nous on voit une porte un peu d'entrée, c'est les députés aussi. Donc par exemple, là, sur la loi qui risque d'être votée assez prochainement, et puis toujours par des biais un peu, comment on dit ?
Alternatifs.
Voilà. Je te laisse. Je un texte à
trouve pas le mot, là, mais non plus.
Non, c'est pour ça.
Et qu'est-ce qu'on ferait aux députés, alors, pour qu'ils votent à peu près correctement, pour être plus accueillis ?
Ouais, de leur écrire, d'essayer de leur parler directement. Non, mais là, tu vois, je sais pas.
T'y crois vraiment ?
Non, mais tu vois, par exemple, j'en sais rien. Là, franchement, je dis juste, moi, ce que j'ai entendu, et je parle même pas au nom de la CIMAD, mais j'ai entendu, j'ai oublié son nom, Sonia Crimi, je crois, députée En Marche, qui a fait une sortie à l'Assemblée, là, il y a quelques jours, sur la loi qui risque d'être votée. Côté, qui quand même parlait du fait que les centres de rétention étaient en train de devenir des centres de détention. En fait, tu vois, elle a mis un peu coulon face à ses opinions, et c'était
même des gens aussi réactionnaires regarder son émouvoir.
Non, mais c'est ça, c'est que je pense qu'en fait là on arrive quand même, les gens qui vivent tous dehors là, tout le monde les voit, on peut fermer les yeux évidemment, mais du coup on peut se dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de députés qui sont arrivés là, qui ont été un peu parachutés, etc., et qui peuvent peut-être, que c'est peut-être des questions sur lesquelles ils ne sont pas encore énormément penchés, et ça peut valoir le coup, du coup, d'essayer de les sensibiliser à ça. Je dis bien d'essayer, c'est évidemment pas un truc sur lequel il faut s'essouffler, mais ça peut être une voie. Et sinon, après, évidemment, des actions plutôt pour sensibiliser les gens en général, qui, moi, j'ai l'impression, quand même, pour beaucoup, commencent à être un petit peu intéressés par la question, ce qui était quand même moins le cas il y a quelques années. Alors, c'est peut-être parce que la situation s'est considérablement durcie, mais voilà. Après, je partage ton désarroi sur le fait que, on ne va pas tout changer là comme ça, mais c'est pas lâcher, quoi.
Oui, absolument. Tout à fait d'accord avec toi.
Quelque chose à ajouter concernant donc la CIMAT, son action dans les centres de rétention dans...
Ben oui, sur la rétention aussi, je voulais dire qu'effectivement, on a vu, il y a eu une circulaire aussi suite au double meurtre de Marseille. Là, vous savez, le préfet a été limogé parce que la personne aurait pu être en centre de rétention. Enfin, bon,
Attends, resitue le double meurtre de Marseille, c'est quoi? Non.
Les personnes qui ont été tuées sur le parvis de la gare de Marseille. Voilà. Et en fait, la personne qui a commis le double meurtre, je me rappelle plus du détail, mais je crois que c'est qu'il aurait pu être ou qu'il est passé en centre de rétention à un moment. Donc l'idée, ça a été évidemment, comme à chaque fois, de créer de grands amalgames, une grande stigmatisation des personnes étrangères sans papier en France. Et du coup, de décider comme ça, en un claquement de doigts, que toutes les personnes étrangères sans papier en France devaient aller en centre de rétention. Donc là, ce qu'on voit depuis cette affaire-là, c'est que il y a les centres de rétention sont remplis, il y a des interpellations partout, tout le temps. Là, au centre de rétention de Cornebarieux, par exemple, il y a plus de 350 placements en rétention depuis fin octobre. Donc, c'est des chiffres que d'habitude on voit sur beaucoup plus de mois. Donc voilà. Et du coup, ils interpellent tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des papiers, donc c'est du contrôle au faciès, évidemment, des personnes qui ont des papiers, des personnes qui sont en cours de procédure d'asile, des familles à gogo, des gens qui se disent mineurs, qui ne sont pas forcément reconnus mineurs, mais qui sont mineurs.
On a eu le cas, on en parlera tout à l'heure, notamment.
Et vous allez en parler, oui. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est qu'ils ne veulent plus prendre la responsabilité de laisser ces personnes en liberté. Tu veux, quitte à ce que les juges derrière libèrent. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, c'est sur ces dernières semaines, on est à 37% de libération par les juges.
37%,
ça veut dire 37% de procédures qui sont illégales. Donc ça, il faut le savoir. On le sait que l'administration commet énormément d'illégalités. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres précis et on a 37% donc de situations de personnes qui sont enfermées en centre de rétention et que soit le juge administratif décide d'annuler la décision de placement en rétention ou l'obligation de quitter le territoire parce qu'il estime qu'elle est illégale, soit parce que la procédure d'interpellation, de placement en rétention est illégale. Là, dans ces cas-là, c'est le juge des libertés.
C'est l'État hors la loi, quoi.
Oui, et je te voulais demander si peut-être tu connais un peu plus les chiffres ou pas. Moi, je me demandais, à propos des centres de rétention, c'est un peu comme en Italie, ça, quelquefois ça passe. On dit beaucoup de fois à des gens, là, on explique, non, ben, on les fait parce qu'ils sont des sans-papiers, peut-être ils sont des personnes dangereuses, tout ça. Mais moi, je me demande combien ça coûte, en fait, quelquefois. Combien ça coûte créer et devoir gérer tous les centres de rétention de plus en plus nombreux, avec beaucoup plus de gens qui, en fait, jusqu'à maintenant, beaucoup de fois, les délits qu'ils font, c'est n'avoir pas de papiers. Et c'est un peu drôle, non? C'est un peu bizarre, ça. Et je me demande combien ça coûte, ça. Et je pense que cet argent-là, il faudrait être dépensé, peut-être, dans des autres activités, que ce n'est pas seulement enfermer les gens dans un cage, non?
Notamment l'accueil,
évidemment.
Je ne sais pas si tu connais un peu des chiffres.
Sur les chiffres, après, je crois que les études, elles varient un petit peu. Moi, les derniers chiffres dont je me rappelle, mais c'était une moyenne, tu vois, à l'échelle européenne, mais une expulsion, donc tout compris, c'est-à-dire interpellation, passage dans un centre, expulsion en avion, les policiers, etc., c'était autour de 20 000 euros.
Pour une personne.
Et soi-disant, on n'aurait pas d'argent.
Mais après, de toute façon, quand on voit les montants, ce que coûte Frontex, par exemple, ça a augmenté Frontex de 150% en quelques années. Enfin, voilà, c'est des budgets maintenant d'une centaine de milliards. Enfin, oui, c'est clair que si on...
Oui, mais Frontex, comme c'est la police aussi, c'est le
numéro. Ça va ? Ah non, il y a un petit problème. Ouais, vas-y, il y a un petit problème de connexion, je pense. tout simplement. Radio Libre Circulation en direct. Ouais. Oui.
Comme Frontex, le budget, c'est la police de l'Union Européenne. C'est tout l'État qui met de l'argent là-bas. Moi, je demande, l'État français, il dépense 20 000 euros par personne pour le renvoyer dans un pays, non? C'est 20 000 euros, ça veut dire 20 000 euros d'argent qui est pris par les mêmes électeurs, on dit comme ça. On ne se prend pas la peine d'expliquer eux qu'on va dépenser l'argent comme ça, non? Après, il manque des services. On a beaucoup de problèmes qu'on n'explique pas.
Ouais.
Je sais pas, c'est un manque de conscience. C'est le gouvernement qui fait comme ça et c'est un manque de conscience, je pense, des personnes parce que, franchement, c'est l'argent que tu payes dans des impôts et vient dépenser comme ça. C'est absurde, je trouve.
Bien sûr. On est d'accord, je crois. Peut-être si, parce que là je vois qu'on a pas mal de choses derrière en fait et ça va aller assez vite. Ouais. Donc peut-être rappeler la CIMAD, le contact téléphonique de la CIMAD si tu l'as en tête. Sinon donc, et la CIMAD qui se situe aujourd'hui au niveau de l'adresse.
C'est au 16 rue de Tivoli et du coup c'est des permanences téléphoniques qui se tiennent deux fois par semaine, le lundi après-midi et le jeudi après-midi.
Et le numéro, je l'ai, c'est le 05 61 41 13 20. Ça, ce numéro-là, il faut absolument appeler de toute façon pour prendre un rendez-vous.
Pour échanger sur la situation et ensuite prendre un rendez-vous. Voilà.
Et ce sont les bénévoles.
Donc, ouais, ce sont des bénévoles qui sont formés du coup le plus possible vu l'évolution des lois concernant les droits des étrangers, mais oui, qui sont formés. Et en cas de placement en centre de rétention, du coup, c'est d'aller voir les collègues de la CIMAD qui sont présents au centre du lundi au samedi.
Donc au centre de rétention administrative de Corne-Barieux.
Voilà.
Donc, je redonne le numéro de la CIMAD, 05 61 41 13 20. Merci beaucoup Alice.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Oui, voilà. Et on va donc écouter tout de suite donc un son qui a été fait donc par Marco d'ailleurs qui est aux consoles et que merci beaucoup. Yeah.